stops you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Camille André et Joséphine Dumoulin. Prise de son assurée ce soir par Jean-Guilain Mel, réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi, Anaël Pija, Yasmine Youssi et Frédéric Bonnet pour parler ensemble de l'exposition Florence Lazare, Tu crois que la Terre est chose morte, jusqu'au 2 juin au Jeu de Paume. Love, exposition de Ren Hang. C'est jusqu'au 26 mai à la Fondation Européenne de la Photographie, Guy Tilley, Museum of the Revolution, jusqu'au 2 juin à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Frédéric Bonnet nous livrera son coup de cœur pour un livre de Catherine Framblin chez aux éditions Hermann sur Jean Fournier, un galeriste amoureux de la couleur. Et puis des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Les Nabis et le Décor, à voir jusqu'au 30 juin au Musée du Luxembourg. Nous ouvrons donc cette dispute avec l'exposition Florence Lazare. Tu crois que la Terre est chose morte, trois petits points. À voir donc jusqu'au 2 juin au Jeu de Paume. Les commissaires en sont Sandra Catini et Dean Ingster. Il s'agit ici d'une sélection de films et de photographies datant de 2000 à aujourd'hui, avec notamment des films sur différentes situations liées au conflit en ex-Yougoslavie ou d'autres films-séries sur le Montfermeil dans la banlieue parisienne. Et puis en plus de cette sélection, on découvre une nouvelle création que Florence Lazare a réalisée en Martinique, intitulée 125 hectares. C'est un film dans lequel elle s'intéresse au combat d'une agricultrice pour un système qui tienne compte des spécificités et des besoins locaux. Mieux c'est d'écouter un extrait de ce film.
Alors cet espace, c'est en fait 125 hectares. Nous avons fait une occupation sur cette partie. Parce que notre problème, c'était avoir de la terre qui était laissée en friche pour travailler. C'était ça notre préoccupation première. Il est assez rare de rencontrer en Martinique 120 hectares qui ne soient pas occupés par la banane. Et je crois que c'est ce qui nous a encore plus motivés de gagner ces surfaces-là pour la petite paysannerie. Hein. Nous, les petits producteurs. On pèse quoi? On a perdu énormément de terres agricoles. Et ça continue à partir. Donc, on est obligé d'avoir une réflexion en profondeur sur la gestion à venir de cet espace qui est la Martinique.
Voilà, c'est extrait du film de Florence Lazare, sa dernière œuvre en date. Yasmine Youssi a étalé ses fiches. Alors, vous pensiez que j'allais commencer par Ren Hang, mais vous avez remballé Ren Hang.
Ah non, pas par
l'instant.
Ren Hang.
Ah,
je
pensais par Guy Tilley.
Ouais, je pensais par Guy Tilley.
Et là, je suis heureux de vous surprendre après toutes ces années. Je vous surprends, Yasmine Youssi.
Toujours.
Bah, c'est heureux. Pourquoi ce film? Alors, les auditeurs entendent cette bande-son, se disent oui, bon, c'est un documentaire, c'est quoi? C'est social, c'est économique. Qu'est-ce que ça fait dans un lieu d'art?
Ben, c'est toute la force de Florence Lazare. C'est, pour moi, ça a été vraiment une découverte. Hein. Je ne connaissais pas son travail. Et ça a été un véritable coup de foudre. La force de ces films documentaires, parce que c'est un travail documentaire qu'elle fait, mais en portant dessus un regard d'artiste. Et la force de son travail, c'est de s'emparer de la marche du monde. Et de porter de choisir pour chaque documentaire un angle très précis. Je dirais presque que ces films devraient être diffusés dans les écoles de journalisme, parce que et plus encore aujourd'hui à l'heure des fake news, à l'heure où les médias, il y a une vraie défiance par rapport aux médias, et dont les médias sont en partie responsables aussi. Hein, il faut le dire. La force, la rigueur, la justesse complexe de ce travail remet les pendules à l'heure.
Question initiale, Yasmine aussi, qu'est-ce qui fait que ce travail-là, et vraiment, en plus après ce que vous venez d'en dire, est présenté dans une institution d'art?
C'est la position qu'elle, elle prend.
Voilà.
C'est vraiment l'imposition qu'elle, elle prend, c'est-à-dire qu'elle se... Comme je vous disais... Un bon journaliste choisit un angle, c'est-à-dire qu'on part pas dans tous les sens, et pour raconter quelque chose, on prend un angle très précis pour raconter une histoire, et en déroulant cette histoire, on dit des faits. Elle choisit justement un angle très précis, là, pour parler de la Martinique, pour parler de problèmes écologiques, pour parler de problèmes coloniaux, pour parler du rôle de la France aussi, pour parler du rôle, pour parler des problèmes du foncier, c'est-à-dire de la... comment ça s'appelle, de l'immobilière, là. Ah, je perds mes mots.
De la spéculation.
La spéculation immobilière, pour parler de tout ça, pour parler de la place des Noirs au sein de la société martiniquaise. Elle choisit de se focaliser sur cette agricultrice qui, en 1983, avec un groupe d'agriculteurs, décide de s'emparer de terres qui étaient laissées en friche, qui allaient être vendues pour faire des immeubles, enfin pour que s'y construisent des immeubles, et qui raconte ça, qui raconte son combat. Et Florence Lazare, à chaque fois, laisse parler les gens. Pose sa caméra de manière très précise, mais laisse parler, n'intervient pas, pas de voix off, et tout d'un coup, par cette manière en fait de rentrer dans l'histoire, extrêmement discrète, elle laisse toute la place à son sujet. Et ça c'est assez fascinant. Ce qu'elle fait, et ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de point de vue.
Point de vue de Frédéric Bonnet sur l'exposition Florence Lazare et sur les premiers propos peut-être qu'on a échangé sur cette place.
Ben, toute façon, pour en revenir à votre question initiale de la portée artistique du travail de Florence Lazare, il faut savoir ce qui n'est pas évident dans l'exposition, c'est qu'elle a commencé comme étant portraitiste. Son premier film date de 2000. Il est là, il est dans l'exposition, il s'intitule Les Paysans. On y reviendra sans doute. Avant ça, elle faisait de la photographie et elle faisait essentiellement du portrait. Moi, ce qui m'intéresse dans son travail, c'est que depuis toujours, que ce soit par la photographie ou par le film, c'est un travail qui vient étudier des minorités qui sont méprisées par le politique ou par l'histoire et qui tente de leur redonner une place qui leur revient en les dotant d'une visibilité qu'ils n'ont pas eue ou qu'ils ont perdue. Et elle le fait comment ? Elle le fait en s'intéressant à la mémoire collective et en dressant justement des portraits par un biais documentaire juge-t-elle, est probablement le plus efficace. Et moi, je trouve que c'est redoutablement efficace parce que ça lui permet, avec une très grande force de caractère, mais sans jamais tomber dans le pathos, d'évoluer dans les méandres d'une histoire qui n'est pas linéaire, d'une histoire qui est accidentée et de s'intéresser à des questions aussi importantes que le conflit en ex-Yougoslavie ou la décolonisation avec une subtilité de ton pour prendre un exemple. Moi, j'ai été très agréablement surpris de la voir revenir à la photographie, justement, puisque je savais qu'elle faisait essentiellement des films, avec une série d'une trentaine de clichés qui ont été réalisés au collège Aimé Césaire, à Paris, dans le 18e arrondissement. Elle portraiture des élèves de ce collège, mais dont on ne voit, je crois, à une exception près, jamais le visage. Et qu'est-ce qu'on voit d'eux ? On voit d'eux, généralement, leurs mains qui tiennent des documents qui ont tous trait à l'histoire coloniale ou de la décolonisation en Afrique. Il y a cette dimension qui est pour moi absolument cardinale dans le travail de Florence Lazare, qui est celle de la transmission. Ce travail-là de photo, c'est un travail de transmission. Comme est un travail de transmission, le film qui peut-être m'a le plus intéressé dans l'exposition, qui s'intitule « Confession d'un jeune militant », où c'est un dialogue qui s'engage entre le père de Florence Lazare et son fils, son père militant de gauche très engagé, qui lui transmet une histoire des luttes, qui lui explique les mouvements de gauche, sans non plus être totalement avoir totalement des étoiles dans les yeux, parce que par exemple, il est très lucide quant au crime chinois, du régime chinois, il le dit clairement, et voilà, et cette histoire, cette question de la transmission est absolument essentielle à mon sens.
Premier regard d'Anaël Pigeat à présent sur cette exposition consacrée à Florence Lazare au Jeu de Paume.
C'est effectivement formidable que Florence Lazare bénéficie de cette visibilité au Jeu de Paume. Elle avait eu une exposition au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris vers 2008 ou 2009, qui était une exposition assez discrète, mais déjà formidable, une formidable introduction, enfin découverte en tout cas de son travail. Ce qui, pour revenir aussi à votre question initiale, ce qui caractérise sa, enfin ce qui est sa singularité, c'est peut-être le fait qu'elle filme la parole. Que ce soit dans un ensemble d'œuvres, celles qui traitent de l'histoire de l'ex-Yougoslavie, de la région de l'ex-Yougoslavie, qui sont tressées dans l'exposition avec d'autres œuvres qui effectivement parlent de la question de la mémoire. Donc elle filme la parole, mais de façon peut-être un peu paradoxale, et c'est là que c'est passionnant, sans jamais qu'il y ait d'aspect discursif, sans jamais qu'elle énonce de thèse. C'est-à-dire qu'elle montre des gens en train de parler et... Elle se met finalement dans la position de l'écoute, mais jamais du reportage, jamais de l'entretien. Il y a une chose assez intéressante, c'est que dans la première vidéo dont parlait Frédéric Les Paysans à l'instant, enfin sa première
chronologiquement, celle de 2000.
Exactement, et aussi première exposition d'ailleurs, elle a filmé dans une langue qu'elle ne comprenait pas, qui est donc cette langue en ex-Yougoslavie, et la vidéo le son de la vidéo est une voix off de sa mère qui parle français par-dessus la voix des paysans qui sont en train de parler de ce contexte de Milosevic, etc. Cette chose-là est tout à fait singulière. Et effectivement, il y a dans chacune de ces vidéos une extrême précision de sa position. Et au fond, elle montre toujours l'extraordinaire complexité de la réalité, quel que soit le contexte auquel elle se confronte. Ensuite, il y a un autre aspect. C'est quand même que la scénographie de l'exposition a quelque chose, il faut le dire, je trouve, d'extrêmement aride. C'est-à-dire que les films sont montrés chacun dans des petites alcôves. Alors, il y a une chose qui m'a assez amusée, c'est que le degré de confort des sièges indique assez précisément le temps qu'on va passer devant la vidéo. Il y a des grands canapés très confortables au fond pour le film Kamen, qui est le plus long, qui dure 1h15.
1h06, pardon.
Enfin, en tout cas, et puis un petit banc un peu plus spartiate pour la vidéo devant laquelle on va passer un peu moins de temps. Mais quand même, il y a tout un espace au milieu qui est étonnamment peu traité dans la scénographie de l'exposition et puis les photos qui sont sur les murs de part et d'autre. Mais en fait, cette aridité fait partie de son travail, c'est-à-dire qu'elle exige, je crois, du visiteur une concentration qu'elle montre très bien dans un film qui s'appelle Les Femmes en Noir, dans lequel elle montre des gros plans sur des visages de femmes en train de parler. C'est un groupe de femmes résistantes et
de Belgrade.
À Belgrade, et on rentre dans la vidéo en les voyant elles-mêmes s'écouter les unes les autres.
Alors c'est vrai que la question de la vidéo et de la durée, c'est pas inintéressant, il n'y a pas grand-chose d'inintéressant d'ailleurs dans cette exposition, mais les auditrices et auditeurs qui nous entendent et qui ne connaissent pas Florence Lazare, mais qui en connaissent d'autres, se disent alors en quoi c'est différent de Frédéric Wiseman ou de Raymond Depardon, encore plus évidemment sur la question d'un photographe qui se fait aussi quelqu'un qui vient recueillir des paroles ou enregistrer des scènes. Mais à part celui sur Kamen, c'est ça le titre,
Pierre.
1h06, c'est relativement court, le dernier film en date sur la matinée qui fait à peine plus d'une demi-heure. On est dans les 15, 20, 30 minutes. Et ça a à voir quand même avec la concision, avec la précision aussi du travail de Florence Lazare, me semble-t-il.
Oui,
Yasmine aussi.
Oui, absolument. Absolument, cette concision. On le voit aussi très bien dans ce film qui s'appelle La Prière. C'est un sujet explosif, les prières de rue à la Goutte d'Or. Vraiment explosif. Alors là, c'est
Ouais.
On a tous un avis là-dessus. Et puis, c'est vraiment l'occasion pour tous les extrêmes de se déchaîner hein, par rapport à ça. Et elle, elle arrive et elle filme très tranquillement. Ça dure 20 minutes. Le temps de la prière. L'arrivée des hommes, parce qu'il n'y a que des hommes. L'arrivée des hommes, l'installation des tapis sur la route. Les trottoirs sont accessibles à tous ceux qui passent. Il y a une espèce de tranquillité comme ça, où les gens arrivent, posent leur tapis, se mettent à prier, s'en vont. D'autres arrivent au bout de 20 minutes. Et puis voilà, et on se retrouve face à cette tranquillité-là. Mmh. Et effectivement, c'est très concis comme temps. Bon, la différence avec un Wiseman, c'est que Wiseman, lui, il y reste des heures.
Enfin, le film fait des heures, généralement, l'arrivée.
Le film fait des heures, oui,
mais là, pour une fois, on a exposition de vidéos, on en parle souvent, on n'a pas le temps de tout voir. Là, il faut y passer certes un peu de temps, mais c'est à une échelle tout à fait possible.
Et puis le jeu de paume, vous m'avez souvent entendu critiquer les dispositifs mis en place au jeu de paume, et là, moi, je trouve que ça fonctionne à merveille. C'est très difficile de, c'est très très difficile de montrer de la vidéo. Vraiment, c'est assez rare de pouvoir y arriver. Il faut avoir des espaces exceptionnels comme à la dans les grandes fondations où on peut créer des alcôves. Et là, vraiment, ils ont réussi à créer, même pour ce qui est du son. C'est très important de pouvoir entendre, de pouvoir être tranquille, de pouvoir être dans un cocon, et ils arrivent à recréer ça, à dire voilà, ça va recommencer dans tant de temps, et on arrive vraiment à aller de l'un à l'autre, d'en prendre un au début, il finit, on arrive à récupérer l'autre, ça se marie très très bien.
Un petit mot encore, Frédéric Bonnet.
Oui, ce qui est très intéressant quand on regarde tout le parcours et l'enchaînement des choses, c'est qu'en fait, sur des sujets qui sont pas simples, et effectivement, je fais mien aussi ce qualificatif d'aridité que vous avez employé, Annaëlle. C'est un travail qui est aride, c'est une expo aride, c'est un travail qui est aride. Je parlais de transmission.
C'est pas un défaut, hein.
Non, je sais que c'est pas un défaut, mais je l'ai pas du tout senti comme ça.
Bon.
Je parlais de transmission. Cette transmission, elle répond, à mon sens, à une chose essentielle, particulièrement d'aujourd'hui, qui est la crise de la conscience historique. Et ça, on le voit, ça affleure ça va très profondément, mais dans pratiquement toutes les œuvres. Et ce qui est intéressant dans le travail de Florence Lazare, c'est que elle aborde cette crise de la conscience historique en dépassionnant le débat, et que effectivement, même une vidéo qui moi m'a troublé, cette vidéo de la prière de rue, parce que c'est un sujet problématique et c'est un sujet troublant, et on peut pas avaler ça comme ça en restant neutre face à ce film-là, d'autant que comme il n'y a aucun commentaire, ça pourrait passer comme une manière de la légitimer. Ce qui, à mon avis, est un problème aussi, mais quoi qu'il en soit, le ton et le mode d'expression employé par Florence Lazare fait qu'elle dépassionne les sujets qu'elle traite.
Annaëlle Pigeat, pour conclure sur Florence Lazare au jeu de paume.
Un mot encore sur sa précision, parce que je trouve qu'il émane de chacune de ses vidéos des idées qui sont extrêmement fortes et souvent assez singulières. Par exemple, je reviens au paysan, le moment où le principal personnage du film réfute l'idée que la guerre de Yougoslavie est le résultat de luttes interethniques que Tito aurait contrôlées, est une chose, je trouve, qu'on n'entend pas tous les jours. De même, dans Kamen, la vidéo sur les pierres, l'idée qu'il y a une très grande ambiguïté dans le phénomène de reconstruction entre la réparation et l'effacement est aussi une idée que je trouve très précise et très très bien amenée. Le moment où le grand-père parle de Sartre en disant que il a aimé sa langue mais qu'il n'aime pas sa période ultra bolchevique, mais qu'il s'est remis de cette maladie qui à l'époque était contagieuse, elle arrive même à donner des traits d'humour et de légèreté tout en gardant une ligne extrêmement droite et extrêmement fine.
Bon, beaucoup de choses à voir, à penser dans cette exposition de Florence Lazare, dont le titre est « Tu crois que la Terre est chose morte ?» C'est le titre du dernier film en date, présenté logiquement à la fin de l'exposition. À voir jusqu'au 2 juin au Jeu de Paume. Il y a un catalogue bilingue français-anglais qui est édité par le Jeu de Paume. À suivre dans la dispute, Rennes, Angaï, Tilim et Jean Fournier.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute art plastique avec Love, Ren Hang jusqu'au 26 mai à la Maison européenne de la photographie à Paris. Le photographe chinois Ren Hang s'est suicidé en 2017, il avait 29 ans. J'ai pensé en tout cas au cinéaste Rubo, mort la même année, au même âge, de la même façon, après avoir achevé le merveilleux An Elephant Sitting Still, peut-être encore dans quelques salles de cinéma, que je vous recommande vivement. Mais revenons à Ren Hang avec 150 photographies qui nous montrent son univers très reconnaissable, on va en parler, des images qui ont essaimé dans le monde entier très rapidement, avec beaucoup de... On va en parler de liberté, d'érotisme, d'intimité, de mélancolie, avec des modèles dont les corps blancs et nus deviennent des paysages, ne cachent jamais leur sexe, avec des regards qui portent loin, on va décrire tout ça. Il a été le plus souvent évidemment censuré dans son pays, mais il a publié plusieurs livres à compte d'auteur, avant que ta chaîne ne lui consacre un volume. Il a aussi publié un recueil de poèmes, comme Rubo également. Voilà la Chine, ce que la Chine écoute aujourd'hui. Non, c'est un tube, voilà, en République populaire. Mais qui n'était pas très tendre avec le photographe Ren Hang, dont on parle à présent. Et c'est Frédéric Bonnet qui commence à nous en parler justement.
Oui, bah pour rebondir précisément sur ce que vous venez de dire de la Chine qui n'était pas très tendre vis-à-vis de lui, moi surtout ce que j'ai retenu de l'exposition, c'est une phrase qu'il prononce. Il y a un petit documentaire qui est diffusé à un moment de l'exposition et dedans il dit cette phrase que j'ai relevée, je veux juste mener une vie tranquille, mais en Chine on ne me le permet pas. Et ça, je crois que ça résume absolument tout son travail, qui a été de prendre à rebours les interdits chinois relatifs au corps et à la sexualité, forcément, ça lui a pas valu que des amitiés et il a eu beaucoup de problèmes. Ceci étant dit, moi, ce que je retiens de cette exposition, c'est une ingéniosité à mettre en scène la plasticité des corps. Et l'entrelacement des corps et de travailler sur une nudité qui ne soit pas honteuse et qui soit assez fière à l'inverse. Après, au-delà de ça, j'ai trouvé cette exposition terriblement ennuyeuse parce que formidablement répétitive et que je trouve que c'est un travail qui est ok sur quelques pages de magazine, 3-4 pages. Là, 150 clichés à la suite. Moi, j'en avais déjà une indigestion à la fin de la première salle et vraiment, je suis parti, j'en avais ras-le-bol parce que au-delà de cette ingéniosité à mettre en scène les corps. Et donc, surtout, c'est vraiment là où il est fort. Quand je parle de plasticité, c'est à mon sens le point clé de son travail, donc de combiner les corps ensemble, de combiner les corps avec des animaux. J'ai quand même un peu l'impression d'être face à la même image à chaque fois. Il y a toujours le même mode de prise de vue frontale, sans aucun après, le même mode de maquillage, la même lumière systématiquement qui unifie l'ensemble, la même approche du corps, le même type de cadrage. Et donc oui, moi, au bout d'une salle, j'avais l'impression d'avoir déjà fait le tour.
Mais on peut quand même dire que c'est aussi une signature.
Oui, c'est une signature, mais à ce moment-là, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus originale, parce que quand on connaît un petit peu Araki et Wolfgang Tillmans, il reprend d'Araki la sophistication de la nudité et la mise en scène, et il reprend Tillmans l'insertion du corps dans la nature et la spontanéité. Et bon, au final, tout ça avec une esthétique répétitive, je suis pas sûr que ça fasse un travail qui tienne dans l'histoire.
Bon, c'est un très jeune homme qui livre ce travail. Yasmine Youssi boit du petit lait, donc je donne la parole à Annaëlle Pigeat d'abord, en écoutant Frédéric Bonnet critiquer l'exposition. Annaëlle, bon, je ne connais pas la vie non plus. Hein.
Pour moi, Renhang, c'était un nom qui était associé à l'univers de la mode. Et effectivement, il a collaboré avec un certain nombre de magazines de mode, mais le fait qu'il se retrouve aujourd'hui à la MEP, puisque c'est la première exposition qui est signée de son nouveau directeur Simon Becker, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on est vraiment dans notre époque, et l'époque dans laquelle la photographie s'ouvre à des domaines un peu plus larges que la photographie telle que on l'a considérée jusqu'à présent, et en particulier s'ouvre au domaine de la mode. Il y avait par exemple à Arles l'été dernier, cette exposition sur Steve McQueen, qui s'appelait Lee quelque chose, et qui était là aussi une ouverture de la photographie vers la photo de mode. Donc voilà, je pense que d'abord Renhang se situe dans cette entre deux, entre la photo de mode et entre la photo...
Il y en a eu beaucoup avant lui.
Il y en a eu beaucoup avant lui, bien sûr.
On en a cité deux à l'instant.
C'était absolument, mais c'était pas ça qu'on voyait à la MEP jusqu'à présent. En tout cas,
pour ce lieu-là. Vous avez des souvenirs autres, hein, visiblement, Frédéric Bonnet et Yasmine aussi.
Non, mais c'est quand même pas la première fois qu'on fait une exposition de photos de mode.
Ça fait un moment que le monde de la photo en France.
Ça
fait un moment que le monde de la photo en France est ouvert à toutes sortes de photos et pas.
C'est exactement ce que je dis. C'est l'époque actuelle. Ouais. Mais en tout cas.
Ça a été assez varié, hein. Monterosso est resté quand même très longtemps. Donc, il y a eu de tout. Il y a eu des photos de mode, il y a eu de tout, hein.
Bon, oui, vous êtes retoqué sur votre premier point, Annaëlle, par vos camarades.
En tout cas, photo de mode ou pas, ce qu'il me semble, c'est que Renhang a un ton et un positionnement qui est assez singulier parce que il jongle en fait avec ce que c'est que la représentation du nu, et il se trouve dans une position où effectivement ce sont des photos qui sont très érotiques, mais avec toujours, qui sont assez érotiques,
mais pas érotiques du tout. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Pas moi qui vous retoque là.
C'est-à-dire que c'est des photographies dans lesquelles joue l'humour, dans laquelle joue la nécessité d'un amusement. Il raconte dans le petit film que citait Frédéric que quand il recrute ses modèles parmi ses amis, en gros parfois des castings un peu plus ouverts, mais à partir du moment où il cesse de s'amuser, il arrête les prises de vue. C'est une situation aussi dans laquelle il y a une très grande mélancolie, vous le disiez dans votre introduction, et qui se mêle comme ça avec le rire, avec le jeu. Il y a des photos quand même très étonnantes dans lesquelles on le voit sauter dans le vide quand on sait qu'il s'est suicidé donc il y a 2 ans à l'âge de 29 ans, qui sont quand même assez prémonitoires. Ce rapport avec la nature, avec ces images nocturnes, avec les animaux et avec la forêt, moi ne m'a pas semblé si répétitif que ça. Et toujours mêlé avec un certain humour, une certaine distance et un certain quant à soi, finalement, que j'ai trouvé assez plaisant.
Yasmine Youssi.
Écoutez, Frédéric, vous avez retenu une phrase du film. Moi, c'est une phrase des Guignols qui m'est revenue de la grande époque quand j'ai vu ça. Vous vous souvenez ? À la grande époque des Guignols, justement, il y avait toujours un des patrons de TF1 qui, pour réclamer du temps de cerveau disponible à la ménagère de moins de 50 ans, réclamait du cul, du cul, du cul. Et j'ai eu l'impression que c'était ça, qu'on nous en servait à n'en plus finir.
C'est bizarre de voir du cul là-dedans.
C'est vraiment ça. Alors, il y a tout dans cette exposition pour créer le buzz.
Parce qu'il disait pas la même chose, le dirigeant de TF1 des Guignols, hein. Mais c'est pas du même cul qu'il parle. Hein.
C'est peut-être pas du même cul, mais enfin, c'est vraiment, encore une fois, pour créer le buzz, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, c'est nu. Regardez aussi, c'est regarder, lorgner, plagier à ce point Araki, ou reprendre tous les codes d'Araki, le lisse, il n'y a pas le bondage. les filles, les cheveux, regarder, utiliser le maquillage comme le faisait Guy Bourdin dans les années 70 et le plagier à ce point, franchement, bon, y a-t-il mens aussi, non, puis de manière aussi répétitive. Alors effectivement, il y a tout. Il y a le nu, il y a la mode, il y a cette esthétique de papier glacé, il y a les jolis animaux, les chatons, le serpent qui n'en finit pas, la blanche colombe, le joli pan, une légende déjà d'étoiles filantes avec toute une histoire. Il était fils de cheminot, fils d'ouvrière, et puis voilà, il s'est mis à la photo. Enfin, il y a vraiment
une légende,
tout. Et
ça,
au final, et au
vous
final,
pas dire
il y a
une légende,
quoi
en l'occurrence.
Non, mais on l'écrit beaucoup. On le vend aussi beaucoup comme ça. On l'a réécrit aussi beaucoup.
On vend à ceux qui veulent bien acheter.
Bah, c'est ce qui est vendu. C'est comme ça que c'est présenté.
C'est
au final, il y a quoi ? Il y a effectivement des photos qui se répètent. On en a vu une, on en a vu 100. Mais c'est interminable. C'est vraiment un truc de papier glacé. On tourne les pages comme ça, vous sortez. Il n'en reste rien. Mais vraiment rien. Et pour dire quoi au final ? Pour dire quoi que effectivement il n'y a pas de communication entre les hommes et les femmes, enfin tout ça apparaît vain si ce n'est pour faire le buzz. Et puis moi ce qui m'a franchement beaucoup gênée, c'est que c'est cette manière de copier chez les autres, mais de,
oui,
de
mais
manière
enfin,
presque éhontée quoi.
Il n'invente rien, il n'apporte rien. Mais non, mais Ça me paraît un peu délicat comme argumentation, parce que le buzz, je suis pas sûr qu'il soit
vraiment
suicidé pour faire le buzz, ce garçon.
Non, je dis pas qu'il s'est suicidé pour faire le buzz. Je dis que l'exposition
copier
présentée
les autres,
pour faire
copier
le buzz.
Les anciens, ben, tous les artistes
non.
le font, ou à peu près, surtout
non,
dans les,
pas,
dans leur,
pas,
surtout,
pas
laissez-moi
point.
Parler, juste une seconde, surtout dans leur vingtaine, ce qui était le cas de ce garçon. Vous dites, on nous vend, encore une fois, je sais pas qui vend à qui, mais on peut avoir un regard. Et la répétition, ça peut être chez un artiste que vous aimerez, une qualité que vous lui trouverez. La répétition pour explorer la même thématique ou les mêmes chromatiques.
Oui, mais apporter quelque chose de nouveau.
Non, mais on peut le renverser.
Non, parce que par image, vous n'apportez rien. Vous avez
mais
150
ça vous
photos qui se ressemblent
à vous, peut-être.
Beaucoup.
Il y a peut-être des gens mais qui sont touchés par Ren Hang, Frédéric Bonnet.
Non, je suis assez d'accord avec Yasmine sur le fait que les citations ne vont pas au-delà des citations. Et que tous les artistes au monde, je crois 100% des artistes, ont tous des influences et ont tous des influences qui sont visibles dans leur travail. Après, il faut en faire quelque chose et il faut essayer d'aller au-delà.
D'accord.
Et effectivement,
pas mon point de vue, hein, c'est juste par rapport à l'argumentation.
Le mélange Arakitilmans, je vais pas au-delà. Et j'ai vraiment l'impression que le logiciel, le curseur est resté bloqué là dessus et qu'on n'a rien fait d'autre.
Mais on a l'impression que vous parlez d'une carrière entière. C'est un artiste qui est mort à l'âge de 29 ans. Vous prenez n'importe quel artiste de la scène
carrière.
Française, mais c'est extrêmement jeune. C'est une carrière extrêmement courte qui a en tout et pour tout duré à peine 8 ans. C'est rien.
Mais c'est un travail qui n'apporte rien.
Mais c'est un travail qui est extrêmement
au niveau
jeune.
De l'histoire de la photo.
Et l'autre
ça
chose,
n'apporte rien.
L'autre chose qui me semble en revanche pouvoir être mise en cause peut-être, c'est que il y a un phénomène de rarification de ses œuvres qui là est peut-être une chose un peu bizarre, c'est-à-dire que sa mère, en fait il n'y a pas de catalogue dans l'exposition, ce qui à mon avis est une chose qui manque, parce que sa mère n'a pas voulu que cela ait lieu, enfin que le catalogue soit publié, et en fait sa mère qui possède ses droits, n'accepte pas qu'il y ait de nouveaux tirages. Donc en fait, les seules images que l'on voit sont des tirages qui ont été exposés du vivant de l'artiste, c'est-à-dire un corpus finalement qui va rester assez restreint dans le temps. La question est de savoir comment cela pourra évoluer. Il y a dans l'exposition un diaporama avec des images qui viennent de son site internet, mais que sa mère possède. Je trouve que là, il y a une question assez intéressante qui se passe, de savoir ce que l'on verra d'autres de son œuvre dans les années à venir.
Ou pas, en effet. Non, mais alors, là où je vous rejoins parfaitement, c'est que je parlais du cinéaste Roubaud, parce que c'était son compatriote et qu'ils ont eu une carrière aussi courte et finie de la même façon, sauf que Roubaud, An Elephant Sitting Still, c'est un chef-d'œuvre qui invente beaucoup de choses dans le cinéma. C'est quand même évidemment une grande différence et j'en parle d'autant plus qu'il y a une série de projections qui accompagnent l'exposition de le Ren Hang et que, notamment, sera projeté le jeudi 25 avril à 18h, ce film An Elephant Sitting Still. Je vous recommande évidemment aussi Kylie Blues de Bigan, le film de Wong Bing à la folie qui est vraiment un film extraordinaire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui accompagnent cette exposition qui ne vous a pas Subjuguer, Yasmine, aussi, vous voulez ajouter un mot encore?
Oui, je voudrais ajouter un mot.
Parce que ça prend sur Gaël Tillem, vous savez.
D'accord, non mais je vais juste ajouter. Moi, ça m'a un peu inquiété, en fait, la programmation de la MEMP, la première programmation de Simon Baker. J'ai trouvé ça un peu inquiétant parce que le reste aussi, alors c'est Coco Capitaine et puis il y a un autre...
C'est de démarquer quand on arrive, ça c'est un réflexe habituel.
Oui, c'est de se démarquer, mais enfin, encore pour se démarquer, faut-il avoir des propositions fortes. Si c'est ça la profession de foi de ce qui nous attend pour les prochaines années, ça m'a fait un peu peur.
Bon, mais voilà. Voyez directement avec votre ami Simon Baker,
Simon.
Comme vous dites, et voyez avec lui pour la programmation. Pour l'instant, Love, Reine Hang, on peut la voir jusqu'au 26 mai à la Maison européenne de la photographie. C'est l'heure du coup de cœur de Frédéric Bonnet, ce soir pour un livre consacré à Jean Fournier. Jean Fournier, un galeriste amoureux de la couleur, de Catherine Framblin, paru chez Hermann, mon cher Frédéric.
Oui, c'est une nouvelle collection à l'initiative du comité professionnel des galeries d'art, qui est assez bienvenue, une collection qui va s'intéresser à des grandes figures de marchands de l'art français. Et Catherine Framblin signe le premier opus consacré à Jean Fournier. Alors peut-être que ce nom va pas forcément résonner chez beaucoup d'auditeurs. Et pourtant, Jean Fournier a été un acteur absolument clé de la scène des galeries parisiennes. Il était né en 1922, il est mort en 2006. Il a travaillé jusqu'au bout de sa vie. Et tout de même, Jean Fournier, ça a été le galeriste de Simon Entaille à partir de 1956, et pendant 50 ans, il a été le seul galeriste de Entaille en France. Ça a été le galeriste de John Mitchell, qu'il a exposé à partir de 1967. Ça a été le galeriste de tous les Américains expatriés à Paris, Sam Francis, Shirley Jaffe, donc de John Mitchell, que j'ai cité, Riopelle, qui n'était pas américain, mais canadien, un passionné de l'abstraction et un amoureux de la couleur, comme le dit le titre de l'ouvrage. Ce que je trouve très intéressant dans cette biographie, c'est que on y suit les engagements et les aléas de la vie d'un galeriste. Il expose de Gotex s'en va, les allées et venues. Même Entaille, dont j'ai dit l'importance qu'il avait eue pour lui. Catherine Framblin relate cet épisode que je ne connaissais pas à partir de 1982, pendant quelques temps, Entaille a fait la grève des galeries. Il a vu se marchandiser, si je puis dire, le milieu de l'art, et il s'est enfermé chez lui. Il n'a plus sorti aucun tableau. Il n'a plus voulu vendre aucun tableau pendant longtemps. On y découvre l'histoire d'une loyauté avec ses artistes, de l'établissement de relations de long terme pour développer le travail pas après pas, année après année, et aussi elle raconte combien Jean Fournier, comment il développait le relationnel avec ses collectionneurs pour chercher à convaincre les acheteurs, et pas à, justement, en dehors de tout affairisme et d'achat rapide, facile, mais au contraire d'essayer d'amener les collectionneurs à s'intéresser à différents aspects d'un travail. C'est un ouvrage qui est plein d'anecdotes. On y apprend ce que je ne savais pas, que Agnès B a été son assistante, par exemple, il a découvert le travail de Claude Viala, qu'il a exposé à partir de 68, en voyant des œuvres avec lesquelles Viala était arrivé à la galerie avec ses œuvres repliées dans une valise, et Fournier était au-dessus de la valise, en sachant pas quoi faire avec tout ça. Ça l'a pas empêché de développer une relation au long cours avec Viala. Voilà, c'est un ouvrage hautement recommandable sur une figure qu'il ne faut pas oublier, parce que ça dit beaucoup de choses aussi des mutations mutation du marché de l'art aujourd'hui. Et même si on en revient que à deux noms, Mitchell et Antaï, qui font des enchères millionnaires aujourd'hui dans les salles des ventes, il a quand même un peu contribué à les faire exister.
Le livre s'appelle donc Jean Fournier, un galeriste amoureux de la couleur. Il est signé Catherine Framblin. Il est publié aux éditions Hermann.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Et le dernier sujet à notre affiche ce soir, c'est l'exposition Guy Tilley, Museum of the Revolution, à découvrir jusqu'au 2 juin à la Fondation Henri Cartier-Bresson. La commissaire en est Agnès Cyr, le photographe sud-africain né en 1962, lauréat du prix Henri Cartier-Bresson 2017, présente à Paris sa nouvelle série qui observe les effets de la décolonisation dans les grandes capitales africaines. De Cape Town pour parler de cette exposition de Guy Tilley à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Et c'est Anaël Pigeat qui commence à nous en parler.
Guy Tilley, c'est quelqu'un qui a commencé comme photojournaliste, qui a fait partie dans la fin des années 80 du collectif AfraPix, vraiment qui avait une approche tout à fait documentaire, qui a même travaillé à l'AFP, et puis qui à certains moments a mis en cause, enfin a connu une remise en cause personnelle, a mis en cause cette approche journalistique de la recherche du drame et de la recherche de l'événement. Et c'est par ce chemin-là qu'il s'est tourné vers le monde de l'art et qu'il est entré progressivement vers quelque chose qui se rapproche plus du monde de l'art. Et cela est passé par son regard sur le paysage. Il tient même aujourd'hui des propos extrêmement critiques sur son travail initial. Mais pour se concentrer vraiment sur la question du paysage, mais le regard, et c'est ce que montre très bien l'exposition, le regard qu'il pose sur ces paysages est toujours un regard qui est quand même très empreint de politique. Alors, sa méthode de travail a changé. Il est passé d'un petit appareil de photo discrètement mis dans sa poche à des grandes photographies à la chambre qu'on voit. Soit dit en passant, c'est intéressant de voir des grandes photographies à la Fondation Cartier-Bresson dans leur nouvel espace, puisque c'était quelque chose qui était un peu difficile dans l'ancien espace du 14e arrondissement où les salles étaient beaucoup plus petites et donc on envoyait souvent des plus petits tirages. Là, ce sont donc des grands tirages à la chambre. Guy Tilley assume sa position dans la rue de photographe visible. Je crois vraiment que quand il travaille, on ne peut pas le rater. Et puis, ces images montrent donc des cadres souvent coupés, où on voit des personnages qui donnent toujours un peu une sensation de mouvement, une sensation de fragments de ville, comme ça, pris et parfois coupés. Ce que l'on voit, ce sont différentes capitales d'Afrique qui sont toutes mêlées dans l'exposition. Le livre est intéressant aussi parce que les légendes sont à la fin. Donc, en fait, on ne voit pas forcément, on ne reconnaît pas forcément, c'est pas forcément où on est. Et ce qui émane de tout cela, c'est vraiment son regard sur l'Afrique comme un territoire neuf. C'est ce qu'il dit, c'est ce que l'on voit, un endroit plein de possibles. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, il revient toujours à la ville de sa naissance, c'est-à-dire Johannesburg.
Yasmine aussi, premier regard sur cette exposition de Guy Tilley.
Moi, j'ai été fascinée par ce travail, mais vraiment fascinée par ces grands formats.
Vous n'avez pas trouvé ça un peu répétitif ?
Non, justement. C'est tout sauf ça. Et je n'arrivais même pas à...
J'arrivais même pas à mettre des mots sur ça m'hypnotisait en fait ces images. Et vraiment, j'étais et j'en parlais avec mon collègue Luc Desbenois. Et en fait, ce qu'il y a de fascinant dans ce travail, c'est que Guy Tillim photographie l'Afrique d'une manière plutôt inédite. D'habitude, l'Afrique, on vous la photographie soit comme une terre de misère, soit comme une terre exotique. Et lui, il photographie la banalité du quotidien, c'est-à-dire des gens qui passent dans la rue. Ce sont ses semblables, il les regarde pas comme autres, mais vraiment comme ses semblables. Lui est sud-africain, blanc. Et que c'est ça, on est vraiment plongé dans quelque chose de tous les jours, quoi. Ce sont vous et moi, et ils traversent, ils vont à tel endroit. Enfin, l'architecture est effectivement très présente. Le fait que dans le livre il y ait pas les légendes, c'est aussi très intéressant. Même si chaque ville, si on commence à regarder, chaque ville a sa propre identité. Si vous prenez Accra par exemple au Ghana, qui est, si ma mémoire est bonne, c'est le premier pays africain à avoir été décolonisé, à avoir eu son indépendance, et qui est resté quelque chose de vraiment, enfin, tel qu'il nous le montre, c'est vraiment une ville de petits marchés, on n'a pas encore pris par les constructions. L'Éthiopie, Addis Abeba, que je retrouve, parce que moi j'y ai vécu, je retrouve quelque chose de totalement différent de ce qu'on a connu. C'était le seul pays d'Afrique, là, pour le coup, qui n'a jamais été colonisé, qui n'avait pratiquement aucune infrastructure. Et quand on le voit dans les photos, on voit bien que c'est le pays le plus dynamique. Je crois que c'est le pays qui a le taux de croissance le plus élevé aujourd'hui, de 9% en Afrique, avec toutes ces constructions qui moi, de mon temps, n'existaient pas. Et toujours, on est dans ce quotidien. Si vous regardez, en fait, l'histoire s'écrit aussi dans ces triptyques. C'est pas une photo qui est découpée en trois. C'est vraiment à chaque fois des photos qui ont été prises à quelques centimètres, à un temps d'intervalle, à quelques centimètres près. Il y a une qui ouvre l'exposition, qui a été prise au Mozambique. Vous avez un immeuble très années 50, très moderniste africain, qui c'était encore la colonisation. Vous avez les tours nouvelles. Vous avez une personne qui unijambiste, qui rappelle la guerre civile qui a quand même ravagé ce pays. Tout est écrit. Deux petits enfants musulmans qui montrent aussi comment l'islam s'est infiltré en Afrique de manière très voyante, alors que c'était quelque chose qui était vécu dans les familles et pas affiché. Voilà. Il a un sens profond de ce que sont les villes africaines. Et puis, n'oubliez pas, oui, il vient d'Afrapix. Et comme le rappelait Luc Desbenois, il ne faut pas oublier que c'est son maître. C'est David Goldblatt. Et David Goldblatt lui disait, enfin, ils ont commencé à travailler du temps de l'apartheid, et il l'a encouragé à regarder la société ségrégationniste en homme libre. C'est-à-dire pas du tout avec d'un côté les bons, les méchants et un regard manichéen. C'est tout sauf ça. Et on le retrouve, ça, c'est ce qu'il continue encore de faire aujourd'hui.
On n'a pas encore entendu Frédéric Bonnet sur Guy Tillim.
Ah, Guy Tillim, on ne se lasse pas. Non, cette exposition est...
N'en rajoutez pas.
Cette exposition est absolument formidable, parce que ce qu'elle explore et ce qu'il explore, finalement, c'est l'évolution et le questionnement identitaire d'un continent décolonisé. Ce qu'on voit systématiquement, parce que c'est une série, finalement, où la réalité géographique de l'une ou de l'autre importe peu, parce que il y a des éléments récurrents. Dans chacune des images, il y a des gens au travail ou des gens qui vont au travail. Il y a des gens en costume ou des gens en vêtements plus traditionnels. Il y a toujours des indices d'une activité économique, des panneaux, des pubs, des signes, des symboles d'un pouvoir économique. Et tout ça se passe dans des territoires dans lesquels il y a des traces d'un passé colonial et dans lesquels il y a eu des révolutions et qui sont devenus des territoires en plein développement économique. Et on passe à travers l'enchevêtrement des formes, donc de l'architecture contemporaine ou de la rue défoncée qui n'a pas été pavée, des formes traditionnelles aux costumes contemporains, on voit qu'il n'y a pas une réalité, mais des réalités qui s'entremêlent dans ces territoires, où on est passé de la colonisation, bien souvent à des régimes socialistes, et aujourd'hui à un capitalisme. Donc tout ça continue de s'entremêler s'enchevêtrer et de s'entremêler. Et moi, j'ai fait le tour de l'exposition en terminant par le centre, et d'un coup, je lève les yeux et il y a cette phrase absolument magnifique et clé d'Achille Mbembe qui dit « L'Afrique postcoloniale est un emboîtement de formes, de signes et de langage. Ces formes, signes et langages sont l'expression du travail dans le monde qui cherche à exister par soi. Tout est dit. » Et c'est remarquable.
Anaëlle Pizza.
Oui, c'est vrai qu'elle est remarquable, cette phrase. Ce qui est étonnant dans ces images, c'est à quel point Gaëtty Lim arrive à montrer des scènes qui ne soient pas pittoresques, qui ne soient pas théâtrales, qui ne soient pas laides non plus, mais qui ne soient pas sublimées d'aucune manière. Et en fait, il tourne toujours autour de cette neutralité qui n'est pas neutre en même temps, parce que évidemment que son regard est engagé. Une des questions qui est intéressante, c'est qu'il a fait une série qui date de 2010, je crois, qui s'appelle Seconde Nature, qui est une série qu'il a faite à Tahiti, qui a été montrée à la Triennale de Paris en 2012, et qui sont des photos extrêmement différentes, puisqu'il a toujours photographié les villes, en fait, Gaëtty Lim, et là, ce sont des photographies de nature, de paysages aussi. Il évoque, je crois, dans une interview, ou dans un entretien qu'il a fait avec Pripyarski, enfin, je ne sais plus, mais peu importe, qu'il aimerait, à présent, s'intéresser à la question des campagnes. Et en fait, je me demandais ce que ça pourrait donner que de prendre ce point de vue si particulier, cette espèce, encore une fois, de neutralité qui n'en est pas une, sur la vie des campagnes. Ça me donne une grande curiosité.
Bon, ben voilà une commande passée. Yasmine aussi.
Oui, vraiment. Moi qui ai en général vraiment un problème avec le grand format, je trouve, dans la photo contemporaine. Et,
parce que certains en ont abusé
voilà,
pour ne rien dire.
On en abuse aujourd'hui pour faire du décoratif, et là, c'est tout sauf ça. C'est vraiment tout sauf ça. Non, c'est une œuvre qui se tient de bout en bout. Vraiment. Et puis, vous êtes dans la réalité de l'Afrique d'aujourd'hui, mais telle que la vivent les Africains, quoi. C'est un regard, ce regard neutre, c'est le regard d'un semblable.
Et puis pour Pardon.
Pardon, je vous en prie.
Non, allez-y.
Non, parce que je voulais dire un mot, tout petit mot sur l'autre exposition. Mais
Ah bon, alors juste avant ce petit mot, mais peut-être pour revenir là-dessus, c'est quand même donc ce nouveau lieu de la Fondation Henri Cartier-Bresson qui était dans le 14e, qui maintenant est installé dans le Marais. Et c'est vrai qu'on voit qu'Agnès Cyr, qui savait si bien accrocher dans un petit espace, ça va très bien dans un grand aussi, Frédéric Bonnet.
Oui, surtout avec cette série de tirages qui sont quand même très très sophistiqués, parce que ça c'est le travail à la chambre, mais le travail à la chambre amène quelque chose d'assez pictural, moi je trouve, dans les clichés. La matité aussi des tirages y est pour quelque chose, ça rend la photo hyper précise et presque hyper réaliste. Il y a quelque chose de presque ambigu, mais parce qu'il décrit un monde qui a une certaine ambiguïté, et je trouve intéressant que la forme soit elle-même presque ambiguë par endroits, parce qu'évidemment, on sait très bien qu'on est face à de la photographie, mais on se rapproche, quelquefois on flirte avec de la peinture hyper réaliste. Et ça, c'est le signe d'un grand talent, moi je trouve, chez Gaëtty Lim.
Un petit mot
sur la scénographie. L'espace, le nouvel espace d'exposition est un grand rectangle. Et la scénographie est très simple. Il y a quelques alcôves, en gros, de chaque côté. Et puis une grande simèse en diagonale au milieu, qui est très habile parce qu'elle crée un effet de circulation et d'errance presque. Et on se trouve dans la situation de se promener dans ces villes, un peu comme les personnages qui sont photographiés, de manière très réussie. Et en même temps, avec une très grande économie de moyens qui va très bien avec ces images.
Et puis du temps aussi, ce qui est bien pour cette exposition qui elle aussi se poursuit jusqu'au 2 juin à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Et puis donc cette publication, on a évoqué, ce sont les éditions MAC qui éditent ce livre Museum of Revolution. Mais il y a une deuxième exposition et c'est le Postscriptum de Yasmine Youssi.
Oui, il y a une petite exposition Cartier-Bresson qui est superbe, parce que déjà quand on vous raconte l'histoire de Cartier-Bresson, en général on fait commencer la carrière photographique de Cartier-Bresson au moment où il part en Afrique, je crois que c'est en 29 ou en 30, et là c'est l'avant Cartier-Bresson. Il y a des photos qui datent de 1926. On se rend compte qu'il est déjà très très marqué par les surréalistes qu'il fréquente et qu'il retrouve déjà à l'époque, il les retrouvait. Ce sont des photos formidables. On avait parlé, moi j'avais été extrêmement critique contre cette exposition que nous avait proposée Beaubourg, photographie, armes de classe.
où finalement on ne voyait rien. Là, les thématiques sont abordées dans ces photos de Cartier-Bresson de manière... Elle est délicieuse, cette exposition, vraiment.
Bon, délicieuse. Elle s'appelle Henri Cartier-Bresson. En France, 1926-1938, est-ce qu'il y a un petit catalogue qui va avec ou
non,
pas
Je crois pas.
Hein.
Je ne voudrais pas dire s'il
y en avait un. Donc ce n'est pas le cas, donc elle aussi visible jusqu'au 2 juin à la Fondation Henri Cartier-Bresson, 79 rue des Archives, 3e arrondissement de Paris. Et avant de conclure tout à fait cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute avec Joséphine Dumoulin qui nous a rejoint comme chaque soir, qui va d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse, Joséphine.
La question était: dans lequel de ses films Werner Herzog défend-il la culture aborigène? Et la réponse était: Le pays où rêvent les fourmis vertes.
On fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition Les Nabis et le décor, à voir jusqu'au 30 juin au musée du Luxembourg. À Paris, quelle est la question, Joséphine?
Quelle toile de Paul Sérusier est considérée comme le manifeste de l'esthétique nabi?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions. Nous nous retrouvons bien sûr demain à 19h, mais pour une dispute ou une émission d'un genre spécial, puisque nous serons non seulement en direct et en public au salon Livre Paris, ce sera d'ailleurs le cas également vendredi, sachez-le. Mais demain, c'est une émission particulière, puisqu'à l'occasion de la sortie du numéro 28 de la revue Papier, la revue de France Culture, je recevrai 4 des écrivains qui ont répondu à notre grande enquête, à la question « À quoi bon la littérature dans un monde d'images ?» pour interrogation. Sur notre plateau demain, Christine Montalbetti, Sabrina Calvo, Gérard Mortilla et Aurélien Bélanger. C'est donc demain à 19h au salon Livre Paris.